VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Midi à Port-Gentil au Gabon, 11h temps universel, bonjour à tous. Au Gabon, on connaît maintenant les dates de la prochaine élection présidentielle. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
Les autorités gabonaises ont fixé lundi les dates de dépôt des candidatures et de la campagne électorale. Selon un communiqué de la Commission nationale électorale autonome et permanente, CENAP, lu à la télévision nationale. La présidentielle gabonaise aura lieu le 27 août prochain. La campagne, qui durera 2 semaines, s'ouvre le 13 août pour s'achever le 26 août à minuit, précise le document. En tout, les acteurs impliqués dans l'organisation du scrutin disposent de moins de 90 jours pour tenir les délais. La période de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle est fixée au 12 juillet. Plusieurs ont déjà annoncé leur candidature ou investi par leur formation politique. Ali Bongo, qui a succédé à son père en 2009 lors d'un scrutin contesté, a été investi par le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Il y fera face à ses anciens camarades du gouvernement, dont Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, et Guizou Bandama, qui a démissionné du poste du président de l'Assemblée nationale, fonction qu'il a occupée pendant près de 20 ans. La veille, un autre opposant à M. Bongo, Casimir Oyemba, cadre du parti créé par André Mbaobab, a été investi par cette formation politique, aujourd'hui divisée. Plusieurs autres candidats ont aussi annoncé qu'ils se présentaient en indépendant. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en février pour un 5e mandat, à l'issue d'élections controversées, a nommé sa propre épouse au poste de ministre de l'Éducation et des Sports dans le cadre d'un remaniement de son gouvernement. Ancienne députée Janet Museveni, âgée de 67 ans, n'est pas une inconnue sur la scène politique ougandaise. Elle occupait depuis 2011 le poste de ministre en charge de Karamoja, une région peu développée du nord-est de l'Ouganda. Le 25 mai, Muzi Kenero Rugouba, le fils de M. Museveni, avait été promu au rang de général de division en charge du commandement des forces spéciales. Ce dernier avait alors démenti vouloir succéder à son père à la tête du pays, alors que l'opposition avait affirmé que Yoweri Museveni le préparait à prendre sa relève. Au Burundi, les 11 élèves âgés entre 13 et 19 ans du lycée Muramvya, accusés d'outrage au chef de l'État et emprisonnés, seront privés de liberté le temps que la justice se prononce sur leur cas. Ces élèves avaient gribouillé des photos du président Pierre Nkurunziza dans leur manuel scolaire. Christophe Nkurunziza.
Pour la maman d'un enfant qui est en 9e année, il faut que ses enfants soient libérés.
Nous demandons que nos enfants soient libérés et aillent passer les examens.
Et pour le gouverneur de la province de Muramvya, Emmanuel Niondiko, les parents des enfants de cette ancienne province monarchique n'encadrent pas suffisamment leurs enfants.
Après Dieu, c'est le roi. Aujourd'hui, le roi du Burundi, c'est le président. C'est-à-dire le respect du roi, le respect du président doit être une rigueur dans le monde entier, plus particulièrement dans notre pays, le Burundi. Alors, après avoir réalisé ça, nous avons constaté que les parents n'ont pas pu peut-être remplir leur mission noble d'enseigner les enfants les valeurs qui doivent qu'elles les jeunes aujourd'hui, parce que ce sont eux, tu es responsable de ce pays.
Pour un des avocats de la défense qui a requis l'anonymat, le gribouillage devient un délit punissable par le code burundais quand il est écrit et ou verbal. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Commission nationale kényane des droits de l'homme a saisi la justice hier pour contester la fermeture annoncée par le gouvernement du camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde. L'organisme n'est pas d'accord non plus avec le renvoi de réfugiés somaliens dans leur pays. Jacques Aristide.
Dadaab, situé près de la frontière avec la Somalie, accueille 350 000 personnes, pour la plupart des Somaliens, qui fuient leur pays déchiré depuis plus de 20 ans par la guerre civile. Pour la Commission des droits de l'homme du Kenya, la fermeture de ce camp va mettre en danger les réfugiés et demandeurs d'asile s'ils sont renvoyés de force. Elle réclame que la DRA, c'est l'organisme gouvernemental en charge des réfugiés, qui a été dissous par le gouvernement, reprenne ses activités. Quant au gouvernement kényan, il explique cette fermeture programmée par des intérêts de sécurité nationale. Les autorités avancent sans en fournir la preuve toutefois que c'est à Dadaab qu'avaient été planifiées les attaques très meurtrières des islamistes somaliens Shebab contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013 et contre l'université de Garissa en 2015. Des voix du monde humanitaire ou universitaire se sont également élevées contre le projet du gouvernement et ont mis en doute sa faisabilité, tant logistique que juridique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la justice a annoncé qu'elle renonçait à son mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre 2015. Mais elle a demandé à la Côte d'Ivoire de le poursuivre dans le cadre d'une autre procédure dite de dénonciation. Le commandant Aliou Nzaré est le commissaire du gouvernement.
En ce qui concerne le sieur Guillaume Soro, au regard du caractère d'extranéité du sujet et des obstacles juridiques, comme le principe selon lequel aucun État n'extrade son national, que dans toutes les conventions multilatérales et bilatérales qui lient le Burkina Faso à d'autres pays, toutes ces conventions stipulent que l'extradition n'est pas possible en matière d'infractions politiques ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes. Le parquet donc a opté pour la procédure de dénonciation dans le cas d'espèce, ce qui du reste a été fait et transmis donc par les canaux appropriés depuis au moins 2 ou 3 semaines.
Le commissaire du gouvernement burkinabé, le Nigeria, lui, est confronté à un nouveau groupe rebelle. En plus de Boko Haram, c'est la force conjointe de libération du delta du Niger, Eric Manirakiza.
C'est dans un communiqué que le conseil révolutionnaire de ce groupe rebelle, issu de la région pétrolière du delta du Niger, a déclaré la guerre contre le Nigeria. La force conjointe de libération du delta du Niger promet de viser toutes infrastructures construites avec l'argent du pétrole, dont la présidence et plusieurs bâtiments officiels d'Abuja. Les sièges des grands groupes pétroliers étrangers, des installations de l'armée et la banque centrale sont également dans le viseur des rebelles. Récemment, plusieurs attaques revendiquées par les vengeurs du Delta du Niger et notre mouvement rebelle ont pris pour cible des installations pétrolières. Ce groupe a demandé l'union des rebelles tout en les invitant à s'abstenir de toute action qui mettrait des vies en danger. Le Nigeria connaît une chute de production quotidienne du pétrole de 800 000 barils à cause de ces attaques. Le président Muhammadu Buhari a ordonné un dispositif de sécurité renforcé dans le delta pour tenter de contrer ces attaques. Mais cette approche est jugée inefficace par son prédécesseur, Goodluck Jonathan.
Au Niger voisin, le gouvernement décrète un deuil de 3 jours à compter de ce mardi à la mémoire des victimes militaires de l'attaque de la ville de Bosso par des éléments de la secte Boko Haram le week-end dernier. Des victimes dont le nombre est revu à la baisse, passant de 32 à 26. La Commission européenne doit dévoiler aujourd'hui un nouveau plan face à l'afflux de migrants en Méditerranée, notamment depuis l'Afrique, d'où viennent la plupart des hommes et femmes qui ont entrepris la périlleuse traversée jusqu'aux côtes de l'Union européenne ces dernières semaines. Le projet sera présenté dans l'après-midi par le vice-président de la Commission, Frans Timmermans, et par la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, devant les eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Des milliers de civils fuyaient aujourd'hui la ville syrienne de Minbej, contrôlée par les djihadistes du groupe État islamique, à l'approche des combattants d'une coalition kurdo-arabe. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, les forces démocratiques syriennes, les FDS, soutenues par les États-Unis, ont avancé dans la nuit à moins de 5 km de Minbej, à partir du nord, a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahman. L'objectif des SDF est de prendre Minbej pour couper l'axe que l'État islamique utilise pour faire transiter hommes, armes et argent de la frontière turque à une trentaine de kilomètres plus au nord vers son fief de Raqqa. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a désigné les rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, comme responsable de l'attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie à 11 personnes aujourd'hui dans un quartier historique d'Istanbul. L'attaque qui s'est produite dans la matinée à Beyazit, secteur commercial et touristique très fréquenté, a également fait 36 blessés, dont 3 dans un état critique. Et puis, les élections aux États-Unis ont démarré aujourd'hui dans le New Jersey, dans le nord-est des États-Unis. Journée décisive pour les primaires américaines dans la course à la Maison-Blanche. Le vote a démarré quelques heures après l'annonce par les médias américains qu'Hillary Clinton avait tout juste atteint la majorité absolue de 2383 délégués nécessaires pour l'investiture de son parti démocrate. Jean-Roger Billon, le prochain flash vous sera présenté par Henri Francis. C'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.